École normale supérieure, savoir en multimédia.
Merci beaucoup. Et donc, Alison Perron, est doctorante à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Elle a travaillé sous la direction de Mireille Kai-Gruber sur un travail également sur Violette Leduc, la poétique du décentrement dans l'œuvre de Violette Leduc. Elle a travaillé aussi particulièrement sur Thérèse et Isabelle, publié des articles dans la revue Sens Public. Et j'ai remarqué que vous faisiez le lien entre diverses interventions, puisque vous avez écrit sur la liberté, l'égalité, la maternité chez Beauvoir, Leduc et Ernaud.
Non, pas du tout.
Ah, alors ça n'est pas vous ?
Non.
Bon, alors excusez-moi. Et en tout cas, vous avez organisé une journée d'études sur Violette Leduc,
oui.
Voilà, à Rome. Cette fois, je ne fais pas d'erreur.
Donc, je vais rester dans les mêmes thématiques que la première partie de la présentation de Mireille.
On l'entend pas.
Car une des choses les plus surprenantes pour moi chez Violette Leduc, en fait, c'est cette liberté qu'elle a eue dans ses relations amoureuses et la diversité, la force, la poétique avec laquelle elle a écrit ses relations. On retrouve dans ses œuvres des formes très diversifiées d'amour, de désir, de sexualité, sans barrière. On ne peut pas réduire son œuvre à ça, bien sûr, car elle est riche dans de très nombreux domaines. Mais c'est une des choses qui a retenu mon attention, donc, puisque je fais mon travail de thèse sur ce sujet. J'irais même jusqu'à dire que Violette Leduc, en fait, pour moi, est à l'avant-garde des études de genre, même si ce n'est pas d'une manière consciente ou désirée, car elle n'était ni politisée, ni théoricienne, ni attachée à une cause particulière. Mais c'est par la sincérité de son œuvre même et sa force poétique qu'elle a réussi pour moi à bouleverser les normes sexuelles. Donc c'est premièrement pour cette raison que je rattache le travail des genres sexuels au genre littéraire. Car chez Violette Leduc, c'est vraiment le poétique qui parle. Mais c'est aussi car les manuscrits permettent donc de dévoiler ce travail. Les ratures, les ajouts, les passages supprimés, les premières intentions, etc., montre ce lieu véritablement de l'intime, comme a dit Anaïs tout à l'heure, qui se rapproche même d'une forme, de la forme du journal intime, avant d'être travaillé et retravaillé en vue de la publication. On peut donc lire dans le travail littéraire du texte le travail du sexuel, c'est-à-dire les représentations des sexes, des genres et des sexualités. Mireille Brioude vient de nous montrer donc que dans La chasse à l'amour, il y a effectivement une célébration de l'organe sexuel masculin, mais aussi de l'homme, avec donc ce « c'est de l'homme », etc., et tous les autres exemples qu'elle nous a exposés. Je voudrais revenir là-dessus, car s'il est vrai qu'il y a cette dimension incontestable, les manuscrits dévoilent aussi finalement des ambiguïtés, que ce soit donc au niveau des sexes, mais aussi des genres et des sexualités. Et c'est ce que je vais essayer de mettre à jour. Donc dans le domaine du sexe, pour commencer, je voudrais essayer de montrer donc l'ambiguïté que j'ai perçue autour de cela. Tout d'abord, juste pour rajouter un élément supplémentaire à propos d'un passage que Mireille a cité juste avant, donc où elle dit que le sexe de René est baroque et pourtant qu'il est la racine du monde, donc qu'elle a commenté, donc je ne vais pas le recommenter. Mais juste, en fait, de cet extrait, s'en suivent trois pages du manuscrit qui chante les louanges du pénis. Donc je vous montre juste les pages des manuscrits pour voir la forme, en fait. Voilà, donc en fait, c'est écrit en prose, comme dans tout le reste des cahiers. Mais en fait, dans les feuillets qu'on a pu observer à l'IMEC, et dont Catherine a parlé tout à l'heure, les feuillets où elle réécrit au propre pour Simone de Beauvoir, et donc qui ont été écartés par Simone de Beauvoir, en fait, on peut retrouver ce même passage qui prend en fait une toute autre forme que j'ai retranscrite et qui ne passe pas. Très bien. Bon, en fait, c'est recopié de manière versifiée, c'est-à-dire qu'en fait, elle a écrit ça sous forme de poème. Donc, on voit vraiment bien tous les passages à la ligne, et ça dépasse pas ça à peu près au niveau de. Donc, désolée de pas pouvoir vous le montrer. Je dirais qu'on pourrait même rapprocher finalement ce texte d'une ode, puisque l'autre donc se caractérise par son lyrisme et son enthousiasme, même si ce critère peut paraître quelque peu subjectif. Une autre qu'on pourrait qualifier d'anacréontique, car en fait, elle est versifiée, mais hétérométrique, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas vraiment des vers, c'est juste vraiment, elle revient à la ligne. Et donc, c'est une autre qui s'autorise une muse plus basse, et donc un sujet plus familier que les autres classiques. Ça pour dire qu'en fait, ce travail poétique est intéressant. Et donc, en fait, on voit bien l'importance que donnait Violette-le-Duc à un passage comme celui-là, puisqu'il a été véritablement énormément travaillé. Cependant, donc, il a été retiré et on est toujours ici donc, dans ce qu'expliquait Mireille auparavant sur une épuration de trop de lyrisme et de poétique pour en rester véritablement au fait. Mais l'intérêt pour nous ici, en tant que donc, chercheurs qui travaillons sur les manuscrits, c'est vraiment de voir que le lien entre sexe et poésie caractérise véritablement l'écriture de Violette-le-Duc. Le second point sur lequel je voudrais revenir, donc, c'est pour nuancer justement cette image trop représentative de la masculinité de l'homme et de sa verge. La première chose est un ajout dans le travail même des manuscrits de Violette, d'une métaphore pour décrire la verge de René, qui doit être ici. Voilà. Donc en fait, elle rajoute, comme vous voyez donc, sur la droite, en interligne cette couille, et ensuite en marge, dans la nuit de mes yeux, une figue fraîche, sombre, violacée, peinte avec du givre, ornée de sa goutte de sucre. La métaphore de la figue fraîche, finalement, ici, est assez surprenante, puisque habituellement, elle est associée au sexe féminin. Et c'est un des seuls ajouts féminisants concernant le sexe de René qui va rester dans l'édition finale. Parce que, finalement, ça ne concerne pas la verge elle-même. Et il est intéressant de voir qu'à l'inverse, les occurrences de féminisation de la verge qui sont présentes dans le manuscrit, sous la forme, par exemple, de dénominations intimes, ont, elles, été retirées de la version finale. Par exemple, elle lui donne les noms de sa grande mademoiselle ou encore ma reine plus que reine, qui sont donc des images très, très féminisantes. Une autre image retirée également qui montre cette féminisation, dont je vous le lis du coup. Donc dans le manuscrit, nous avons « Nous la regardâmes pendant plusieurs minutes, la verge et la mère, M-E-R, la verge et la mère, M-E-R-E, les verges de la mère, M-E-R, quand l'orage cingle les vagues. » Et donc toute cette partie sur la verge et la mère a été retirée. Je suis désolée que vous ne puissiez pas le voir parce que c'est un peu plus évident. Donc la mère, M-E-R-E, est évidemment une image typique du féminin, puisque c'est le maternel, etc. Mais la mère, M-E-R, l'est également, puisque dans les codes de la littérature, la mère représente une image assez féminine. Et donc c'est une image, les verges de la mère, c'est une image assez subversive qui finalement vient ou féminiser les verges ou masculiniser la verge, mais en tout cas qui efface les frontières du genre. Les manuscrits dévoilent donc que l'écriture première intime chez le duc joue avec les ambiguïtés et qu'en particulier le travail poétique métaphorique apporte ce jeu subversif que l'on retrouvait par exemple déjà plus dans la version imprimée de Ravage avec son mari Marc. Un dernier point marque véritablement aussi ce choix de glorification de l'homme et de son pénis. Puisque donc en fait dans les manuscrits on voit que les rejets et les réactions envers cette masculinité qui apparaissent dans les manuscrits ont été retirés de l'édition finale. Par exemple donc ce testicule qui apparaissait tout à l'heure comme une gourmandise dans l'exemple précédent se voit à un autre moment mis en danger puisqu'elle écrit « Je le portais dans ma main, je le bougeais, le testicule proche de moi. J'ai parlé de décapitation, je fus tentée également à cet endroit-là. » Donc ce René émasculé, fantasmé ici, a été retiré de l'édition finale. Il en va de même pour ce passage de vantardise de la part de René, où la réaction de Violette-le-Duc a été énormément simplifiée. Je pense que ça ne va pas marcher non plus. Voilà. Donc, dans le folio, en fait, il est écrit, donc c'est René qui lui parle et qui lui dit « Elle te plaît ?» Et donc, là, en dessous, il y a écrit « Homme, je clouerai tes mains et tes pieds pour ta fatuité. Elle m'effraie. » Dans le texte final, il ne reste que « Elle te plaît ?» C'est effrayant. Donc cette réaction assez violente où finalement Violette Leduc veut crucifier René pour sa vantardise disparaît complètement au profit d'une forme de soumission et d'admiration. On retrouve un autre exemple où il y a une description donc, de la relation sexuelle et René apparaît relativement sûr de lui. Et il y a cette phrase dans le manuscrit donc, qui sera retirée qui est « Son sexe dodelinait, il naissait de mon sexe, il oscillait, j'avais envie de hurler « Vise, mais vise donc, je me taisais ». Il y a donc un travail d'effacement des critiques et des réactions de Violette Leduc pour ne laisser quasiment donc, que cette glorification du sexe de René. Sexe de René élargi au sexe de l'homme en général, comme si l'homme était réduit à son sexe. Il y a vraiment une généralisation, en fait, qui est qu'on a le sexe, c'est René, et c'est le sexe de tous les hommes. Enfin, ça se mélange véritablement, parce qu'elle dit des choses comme « un homme, c'est 100 000 », ou encore tout à l'heure dans l'Aude, il y avait écrit donc cette question « c'est le sexe de René » et cette réponse « c'est le sexe de tous les hommes ». Voilà. Donc les manuscrits montrent plus d'ambivalence, de subversion à ce sujet que la version imprimée. Et encore une fois, ce serait véritablement intéressant de comparer l'écriture du sexe dans les manuscrits de Marc dans Ravage, puisque déjà dans la version finale, on a vraiment une subversion à ce sujet. Donc je voudrais montrer ensuite, donc dans un deuxième temps, que ces ambiguïtés sont aussi présentes en ce qui concerne le genre, c'est-à-dire le masculin et le féminin. Le premier exemple est un lapsus assez révélateur que fait Violette Leduc, un petit peu comme ce que disait Anaïs tout à l'heure, donc avec le visage viril pour la mère. Ici, elle parle donc de René et donc elle est en train d'écrire toute cette force virile dont on a déjà parlé. Et il y a cette rature. Si vous étiez seul, S-E-U-L-E, et elle barre le E, et donc cette erreur du genre linguistique rectifié marque l'ambiguïté ici des genres sexuels et dévoile peut-être l'écart qu'il y a entre la perception et les désirs d'écriture qu'aurait Violette Leduc, donc dévoilé par l'inconscient de ce lapsus, car dans toutes ses autres œuvres, on voit bien l'importance du genre qui participe véritablement, enfin du jeu sur les genres qui participe véritablement de sa poétique. Donc, et ce qu'elle a voulu écrire dans La chasse à l'amour, son projet d'écriture, si l'on peut dire, qui est vraiment centré là sur une glorification du masculin. Un autre élément montre le trouble des genres linguistiques sur les genres sexuels. Ça n'a pas marché. C'est la rectification de cette faute d'accord. En fait, elle écrit, je vais vous lire tout l'extrait, puisque je vais m'en servir après. « Un caillou au bord du terrain tomba de lui-même. J'attends encore le bruit. Je pose mon stylo sur mon cahier, je me lève, j'imite René, je marche entre ma table et mon divan avec mes mains dans les poches de mon pantalon de velours roux. Mon initiation est absurde. Je n'ai pas sa carrure, je n'ai pas son envergure pour me taire. Je ne suis pas un arbre de laine jusqu'aux genoux, je gaffe. Vous avez des soucis ? Il tourne la tête de mon côté, il m'avait oublié. J'étais une habitude, un de ses parallèles, dans un terrain vague, son double asexué. Et là, donc, à la fin de asexué, elle barre le E. Cette rature du E final est intéressante car elle marque encore une fois le trouble que crée la sexualisation de la langue. Mais donc, dans ce passage, ça dévoile aussi finalement le jeu sur le genre masculin. Puisque finalement il y a ici une parodie du genre masculin à travers cette imitation de René, une sorte de travestissement qui ne fonctionne pas car René est trop homme en fait. Ce passage retiré de l'édition finale montre encore une fois, comme dans les manuscrits, le jeu sur les genres est plus important, que dans l'édition finale. Dans Ravage, Thérèse et Marc sont beaucoup plus proches au niveau des genres que ici Violette et René. Si on prend l'exemple, par exemple, de leur mariage, on voit cette description où ils sont vêtus de la même manière, ont les mêmes attitudes, ont les mêmes choses dans leur poche, etc. Et où finalement ça fonctionne très bien. Ici, le ton est tout à fait différent et donc c'est beaucoup moins subversif. Le dernier exemple que je voudrais donner, c'est un épisode totalement retiré des cahiers 13 et 14, où en fait Violette Leduc est malade et une femme nommée la débrouillarde l'aide. Et cette femme est véritablement un exemple d'ambivalence. Il y a chez elle un contraste tout d'abord entre donc, sa féminité, je cite, 42 ans, appétissante d'un bout de l'année à l'autre, comme un sorbet à la framboise en été. Et de l'autre côté, sa masculinité. Son sport est original. Elle escalade les rochers les plus dangereux. Elle tue les étranges et les savoureux poissons avec un pic. D'énormes poissons dont les pêcheurs de métier parlent à 100 lieues à la ronde. Il ne l'envie pas, il l'admire. C'est une gonzesse qui cache ses biceps. On peut retrouver un contraste aussi donc, dans sa manière de parler, qui peut être à la fois poétique et douce. Son accent du pays ne choque pas, la musique l'emporte. Je l'écoute raconter toute une ville sur le bout des doigts, j'ai la fraîcheur d'une grenade éclatée dans mes oreilles, à Séville, à 1h de l'après-midi, en juillet. Et d'un autre côté, parfois plus grossière, elle module les gros mots et les obscénités. C'est également une femme qui vend son corps, je cite, « Elle a appris tôt à satisfaire les hommes en apprenant le métier de couturière. Elle livrait chez les clients à 16 ans, les livraisons finirent en nuit blanche. » Et en même temps, d'un autre côté, elle s'est forgée une vie de femme indépendante qui se suffit à elle-même, tout en étant mariée et avec un enfant. Outre le portrait, donc déjà assez parlant de ce personnage tout à fait marginal et atypique, c'est la réaction de Violette Leduc qui est assez intéressante, puisqu'elle écrit « Je lui dois les deux tiers de ma guérison. Elle m'injectait chaque jour sa vitalité. » Elle époustait nos idées noires, elle aérait nos redites. De sa bouche ouvrière en chambre, de sa bouche aspiratrice d'impuissance, de sa bouche serviable avec les sexes paresseux, je le suppose, et là il manque un bout de texte, je n'y vois aucun mal puisque ce sont des travaux courants. De sa bouche efficace sort des gentillesses couleur de gitane. Elle a de l'esprit, mais elle ne se sert pas d'épingle. Elle vous ficelle un homme en 2 minutes avec ses réparties. Ces femmes-là disparaissent et disparaîtront, leur habileté est trop proche de nos machines. » Ce portrait montre que l'ambiguïté et la subversion du genre sont toujours bien présents finalement dans l'écriture de Violette Leduc, car en fait ce type de portrait n'a en soi rien d'étonnant si l'on compare aux autres textes de Leduc, mais dans ce livre, dans La chasse à l'amour, finalement ils ont été relativement épurés. Je termine donc par la question des sexualités. Mireille Brioude nous a bien dit qu'une grande partie donc, du lyrisme et du poétique ont été retirées pour ne se concentrer finalement que sur les descriptions de l'acte. Mais il y a aussi un autre élément qui a été retiré et c'est l'affectivité. Donc là, normalement... Ah ben, je l'avais celui-là. Pardon, excusez-moi. Donc c'est là. C'est elle-même qui a rayé et il est écrit « René, mon René, René, motte de terre enlevée à ma sépulture après que j'ai ressuscité ». Et donc ces deux éléments que sont le lyrisme, le poétique et l'affectivité étaient très présents par exemple dans « Thérèse et Isabelle et dans Ravage » qui sont deux livres où on parle aussi énormément de sexualité. Et ça participait véritablement à l'écriture de cette sexualité. Et donc, on peut se demander pourquoi ici, ça a disparu. Et donc, c'est là qu'un autre lien entre genre littéraire et genre sexuel apparaît peut-être. Thérèse et Isabelle et Ravage sont deux œuvres dites de fiction. La liberté du poétique, du fantasmagorique, l'exagération ou la diminution des réactions, des actes, etc., ne sont finalement pas contraints par les attentes autobiographiques. De plus, à l'époque des manuscrits donc de ces deux livres, enfin de ce livre, Thérèse et Isabelle et Ravage, la censure n'avait pas encore circonscrit les écrits de Leduc, et ces textes sont donc peut-être écrits plus librement. La chasse à l'amour est une œuvre a priori, ici, hein, je dis toujours a priori parce que le lien entre fiction et réalité est toujours très ambigu chez Violette Leduc. Donc a priori autobiographique correspond à des exigences et s'inscrit dans un projet autobiographique général qui a été quand même, comme l'a dit Catherine auparavant, incité véritablement par Simone de Beauvoir. Et donc c'est une autobiographie plus sage, plus conformiste que les œuvres de fiction qui, elles, n'avaient pas réussi à rencontrer le public et l'autobiographie a permis de rencontrer finalement le succès. Donc les genres littéraires influent sur le travail des genres sexuels en fonction des attentes et des obligations que finalement l'auteur incorpore et où il finit presque par donc s'auto-censurer. Un autre passage donc tout à fait inédit, retrouvé là aussi donc dans les feuillets recopiés qui ont été supprimés et qui sont à l'IMEC, montre que finalement trop de fantaisies sexuelles ne pouvaient pas être intégrées dans ce livre. Dans ce passage, Violette est avec René, mais cela ne semble pas lui suffire puisqu'elle dit « René, accorde-moi une minute, j'ai mes exigences, mes nombres ». S'en suivent trois feuillets d'un fantasme à la fois cru, poétique et parfois empreint d'humour où elle rêve de faire jouir et éjaculer entre 300 et 500 boueux, déménageurs ou ouvriers étrangers. Je cite juste un tout petit passage. « Aujourd'hui, je me marie. Le sperme m'aveugle. C'est mon voile de mariée. Il est frais. Je me marie avec qui ? Avec les obsessions de nymphomanes. Aphrodite, ils me font un shampoing avec leur jet. C'est jour de noces. Sauf qui peut, j'ai avalé mon voile. Le sperme n'étant pas ma boisson préférée, j'ai mal au cœur, mais ce que j'ai vu sortir est céleste. » Donc nous avons là un passage typique de ce que je trouve si particulier finalement à l'écriture de Violette Le Duc, qui est ici donc la subversion du mariage, l'humour qui dédramatise la sexualité, ses images métaphoriques et surtout sa liberté de ton. Et il est à mon avis donc dommage que ces envolées sexuelles fantasmatiques aient disparu dans l'édition finale. D'autres éléments, par ailleurs, en lien avec la question des sexualités, ont disparu, comme ces deux réflexions donc, sur son passé de lesbienne. Dans le cahier 6, elle écrit « Je respecte les hommes, les vrais. Comment aurais-je supporté la main d'une onaniste ou d'une lesbienne dans la main de René ?» Ou encore dans le cahier 13 et 14 « Je vous aide », a dit la débrouillarde venue là. « Non, tu m'as blessée, femme facile, tu te trompais. Mon bras n'était pas celui d'une lesbienne. Je l'ai été, lesbienne, c'est fini depuis longtemps. » Je ne te ferai pas l'honneur de te l'expliquer. Mon bras fraternel cherchait le tien. Tu n'as pas compris. Tant pis pour toi, tant pis pour moi. » Donc finalement, cette remise en question ici, cette discussion qu'on a entre ces œuvres, où elle décrit tellement de sexualités différentes, perd de sa force par le polissage qui a été fait dans l'édition finale, même s'il reste certains passages à ce propos dans d'autres situations. Mais en tout cas, il y a eu une forte diminution. Dans l'édition finale. Donc dans cette édition finale, on a donc un retour à l'ordre hétérocentriste qui est mis en avant, c'est-à-dire à tout ce qui tourne autour d'une forme d'une hétérosexualité normative. Et pourtant, dans les manuscrits, certaines phrases vont bien au-delà de toutes ces normes, à l'image de cette phrase à propos de René qui est en train de se déshabiller, une phrase qui aujourd'hui reste révolutionnaire puisqu'elle écrit « Je ne vois rien, j'entends, j'écoute, il est une mariée qu'on simplifie, les projets n'ont pas de sexe, le mariage à côté du fauteuil, la mariée est un homme bien membré. » C'est ça. Donc ici, c'est René qui est la mariée et il me semble qu'on ne peut pas faire plus subversif, que cela en ce qui concerne donc l'écriture des sexes, des genres et des sexualités. Et voilà pourquoi Violette Le Duc, pour moi, est donc à l'avant-garde des études de genre et pourquoi l'étude des manuscrits dévoile encore plus de choses à ce sujet que le texte imprimé nous laisse voir, et en particulier donc pour la chasse à l'amour, que je trouve personnellement être beaucoup trop timide et trop réservée sur toutes ces questions, qui sont pourtant si bouleversantes et si perturbantes dans ces autres œuvres de fiction. Donc voilà pourquoi ce travail finalement n'est pas terminé, bien au contraire. Il reste de nombreuses questions autour de cette relation avec René, et aussi un gros travail à faire peut-être sur une comparaison entre ces manuscrits d'œuvres de fiction, par exemple de Thérèse et Isabelle et Ravage, qui permettraient véritablement donc d'enrichir ces recherches sur les liens entre genre littéraire et genre sexuel.